sur France Culture, il est midi et demi. L'heure des informations avec vous, Antoine Maret, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, la reprise des combats en Syrie. Malgré la trêve humanitaire décrétée par Moscou, des raids et des tirs ont été entendus ce matin dans la Ghouta orientale. 30 ans de prison et 90 millions d'euros d'amende requis contre l'ancienne présidente sud-coréenne. Park Geun-hye est accusée de corruption et d'abus de pouvoir. Elle avait été destituée par la Cour suprême il y a un an. L'Europe sous le choc après le meurtre en Slovaquie la semaine dernière d'un journaliste d'investigation. Un meurtre qui survient 4 mois après celui d'une autre journaliste. Liste européenne d'investigation, cette fois à Malte. L'invité du journal sera Pauline Hadès-Mevel. Elle s'occupe de la zone Union européenne-Balkan à Reporters sans frontières. Dans l'actualité française, journée île morte à Mayotte. L'île est le théâtre de manifestations depuis 5 jours pour protester contre l'insécurité. Midi 55, seconde partie de la grande table avec vous, Raphaël Bourgois.
Et avec deux questions, peut-on sauver la construction européenne et même faut-il sauver cette Europe maintenant vieillissante et impuissante, deux questions qui sont au cœur du dernier essai de l'économiste Christian Saint-Étienne, « Osons l'Europe des nations » publié aux éditions de l'Observatoire.
À tout à l'heure. En Syrie, le cessez-le-feu n'aura pas tenu longtemps dans la Ghouta orientale. Des raids et des tirs ont été entendus ce matin malgré l'entrée en vigueur de la trêve, une trêve humanitaire quotidienne décrétée par Moscou. Bonjour Laure Stéphan.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Beyrouth. Alors comment les habitants ont vécu cette matinée ?
Alors selon un médecin que j'ai pu joindre sur place et qui réside dans le centre de l'enclave rebelle, les civils ont mis à profit les quelques heures de calme pour sortir des abris où ils étaient terrés et chercher à se ravitailler en nourriture. Le mouvement est revenu dans les rues désertées pendant 10 jours. Durant cette accalmie, 10 médecins, on pouvait entendre le son d'avions de chasse au-dessus de la route orientale, mais c'était une amélioration enfin espérée. Cette amélioration n'aura pas duré puisque des bombardements aériens ont de nouveau été menés par les forces pro-régime selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des tirs d'obus et de roquettes ont aussi eu lieu près du principal checkpoint qui borde la route orientale. Chaque parti, régime ou opposition accuse l'autre d'avoir mené des attaques. En théorie, la trêve devait être totale jusqu'au début d'après-midi. Aucune entrée de convoi de nourriture et de médicaments n'est en vue dans l'immédiat et de telles opérations ont encore moins de chances de se produire si les violences se poursuivent. Depuis ce matin, des médias pro-régime affirment que les corridors humanitaires annoncés par Moscou pour le départ de civils sont en cours de préparation. Des bus ont été affrétés près du principal checkpoint, mais il n'y a pas de mouvement vers ces corridors. Moscou accuse les groupes rebelles de retenir en otage les civils, les insurgés démentent. Ce qui est sûr, c'est que si des personnes veulent quitter l'enclave rebelle, de nombreuses conditions manquent. Aucune organisation internationale n'est impliquée pour sécuriser les départs. La zone où se trouve le checkpoint est dangereuse. De nombreux snipers y opèrent et il faut du temps pour la rejoindre. Des barrages rebelles quadrillent la route orientale.
Merci à vous, Laure Stéphan. 30 ans de prison et 90 millions d'euros d'amende requis contre l'ancienne présidente sud-coréenne, Park Geun-hye, est accusée de corruption et d'abus de pouvoir. Elle avait été destituée par la Cour suprême il y a un an. Elle est avec son entourage au cœur d'un scandale tentaculaire impliquant les plus grandes entreprises du pays. 30 ans de prison requis, c'est une peine très lourde. Alors comment expliquer une telle sévérité du parquet ? Élément de réponse à Séoul avec Frédéric Ojardias.
Le réquisitoire est à la hauteur du séisme politique qu'a représenté le scandale. Les procureurs ont justifié leur sévérité en affirmant que l'affaire avait laissé, ouvrez les guillemets, une cicatrice indélébile dans l'histoire de la Corée du Sud et qu'elle était une occasion pour le peuple de restaurer la démocratie et l'état de droit. Le scandale avait provoqué des manifestations monstres, des millions de Sud-Coréens étaient descendus dans la rue pendant des semaines. Park Geun-hye, âgé de 66 ans, est sous le coup de pas moins de 18 chefs d'accusation, parmi lesquelles la corruption, l'abus de pouvoir et la divulgation de secrets d'État. Choi Soon-sil, sa confidente, celle que la presse a surnommée Rasputin, a déjà été condamnée à 20 ans de prison ferme pour 15 chefs d'accusation communs, notamment pour avoir extorqué 44 millions d'euros à de grandes entreprises. On peut donc s'attendre à un verdict encore plus sévère pour l'ex-présidente. Choi Soon-sil, elle, a déjà fait appel. Les partisans de Park Geun-hye crient au règlement de compte politique puisque c'est son opposant, le progressiste Moon Jae-in, qui a été élu suite à sa destitution. L'ex-présidente elle-même n'a pas assisté à son propre procès depuis octobre. Elle accuse la justice d'être partiale. Le verdict final est attendu dans les prochaines semaines.
Pékin à la manœuvre pour tenter d'étouffer la contestation face au projet de révision constitutionnelle. Le Parti communiste chinois veut permettre au président Xi Jinping de se maintenir indéfiniment au pouvoir. À l'heure actuelle, la Constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Ce projet est vivement critiqué sur les réseaux sociaux, mais les équipes de censure sont à l'œuvre pour effacer les messages trop contestataires. À Pékin, les précisions de Dominique André.
La modification prochaine de la constitution de la République populaire de Chine suscite une certaine émotion dans le pays. C'est l'empereur Xi, ironise un Pékinois qui veut rester anonyme. Un jeune Chinois a publié une lettre ouverte pour protester contre le cumul des mandats, mais elle a été immédiatement censurée. Le même sort est réservé aux milliers de messages diffusés sur les réseaux sociaux. Il faut faire vite pour les lire car ils sont supprimés aussitôt. Nous allons devenir la Corée du Nord. Nous suivons l'exemple de nos voisins, écrit un utilisateur de Weibo, le Twitter chinois. Pathétique, 1,3 milliard de Chinois et aucun ne résiste, regrette un internaute. Sur son compte Twitter, le jeune leader de Hong Kong, Joshua Wong, fustige la décision de ne plus limiter le nombre de mandats. Il y a même ceux qui rendent hommage à Deng Xiaoping, l'homme de l'ouverture économique de la Chine, et surtout celui qui a introduit la limitation des mandats dans la Constitution en 1982. Même Winnie l'ourson, personnage de dessin animé auquel est comparé Xi Jinping, est bloqué par les censeurs. Seule la presse officielle se réjouit. La modification de la constitution correspond à la nouvelle ère du socialisme chinois, pensée de Xi Jinping, qui sera d'ailleurs inscrite dans la constitution du pays.
L'Allemagne se prépare à l'interdiction du diesel en ville. La Cour administrative fédérale de Leipzig a rendu sa décision concernant les villes de Stuttgart et Düsseldorf. Ces communes vont pouvoir bannir de leurs rues les véhicules diesel les plus anciens. Bonjour Cyril Sauvageau.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Berlin et cet arrêt va avoir une portée nationale.
Alors, dans un premier temps, ce sont deux grandes villes qui sont concernées, Stuttgart et Düsseldorf. Mais effectivement, la décision de la Cour administrative fédérale vaudra à terme ensuite pour beaucoup d'autres centres urbains, puisque 70 villes en Allemagne dépassent actuellement les taux de particules fines. Partout, les moteurs diesel les plus anciens pourraient être bannis. Et ce sont les villes elles-mêmes qui devront mettre en place ces interdictions à l'échelon local. On imagine l'ampleur du défi, la complexité de mise en œuvre de ces mesures de restriction du trafic, comment contrôler les voitures, comment ne pas pénaliser l'économie locale et quid des propriétaires de ces véhicules. 12,5 millions de voitures sont potentiellement concernées, tous les diesels répondant à la norme Euro 5 et les précédentes. Cette décision est une très mauvaise nouvelle pour l'industrie automobile allemande, mais aussi pour l'État fédéral. Le prochain gouvernement va devoir, quoi qu'il arrive, plancher sur des solutions d'amélioration de la qualité de l'air. L'Allemagne fait partie des mauvais élèves, brocardés encore récemment pour ses taux de pollution par la Commission européenne.
Merci à vous, Cyril Sauvageau. L'Europe sous le choc après le meurtre en Slovaquie la semaine dernière d'un journaliste d'investigation, Jan Kuciak, avait 27 ans. Il travaillait sur des cas de fraude fiscale dans son pays. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a affirmé que le meurtre ou l'indignation des journalistes n'avaient leur place ni en Europe, ni dans une démocratie. Bonjour Nadine Epstein.
Bonjour.
Ce meurtre survient 4 mois après celui d'une autre journaliste européenne d'investigation, cette fois à Malte.
Oui, un tel assassinat de journaliste par balle est une première depuis que la Slovaquie, ce pays d'Europe centrale, a rejoint l'Union européenne en 2004. Et en dehors du massacre de la rédaction de Charlie Hebdo en 2015, le meurtre l'an dernier de la blogueuse Amal qui dénonçait des affaires de corruption avait choqué et secoué l'Europe. Daphné Galizia avait révélé un scandale de corruption au sommet de l'État. Malgré les menaces, elle ne bénéficiait d'aucune protection. Aucune protection policière non plus pour le journaliste slovaque. L'opposition politique slovaque qui dénonce cet assassinat accuse le pouvoir en place à Bratislava de corruption et d'avoir participé au développement d'un climat nuisible aux journalistes. L'an dernier, la presse avait sorti plusieurs affaires de corruption impliquant le gouvernement, de fâcheuses divulgations pour le pouvoir, auxquelles le chef de l'exécutif avait répondu en accusant, je cite, certains journalistes d'être de sales prostituées anti-slovaques. Jan Kuciak enquêtait sur des fraudes présumées liées à un complexe d'appartements de luxe dans la capitale slovaque. Il écrivait sur des personnes privilégiées proches du gouvernement. en septembre 2017. Le journaliste avait déposé une main courante contre un homme d'affaires qui avait acheté puis revendu un logement dans ce groupe immobilier. Sur Facebook, il écrivait qu'il avait porté plainte contre ce businessman après avoir reçu des menaces. Le ministre de l'Intérieur slovaque, plusieurs fois mis en cause dans des investigations journalistiques, a promis de faire aboutir l'enquête sur cet assassinat. Le gouvernement offre même 1 million d'euros à toute personne qui fournira des informations menant au meurtrier du couple. Un comité de soutien aux journalistes va prochainement organiser un rassemblement à la mémoire du journaliste et contre la corruption.
Merci Nadine Epstein, invitée de ce journal, Pauline Hadès-Mével. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes en charge de la zone Union Européenne-Balkans à Reporters sans frontières. Est-ce que la liberté de la presse est en régression en Europe ?
Bonjour, la liberté de la presse est effectivement choquée ce matin après l'annonce hier du l'assassinat de ce journaliste slovaque et de son ami. Nous avons dénoncé à plusieurs reprises ces derniers mois un déclin de la liberté de la presse dans les démocraties européennes. Ce genre d'événement témoigne effectivement du climat qui se dégrade petit à petit. C'est quelque chose qu'on déplorait en Pologne de façon spécifique l'an dernier. C'est des problèmes qui se posent en Bulgarie régulièrement, mais dans l'ensemble en fait de l'Europe et principalement en Europe de l'Est, on constate effectivement une dégradation du climat et une augmentation des attaques envers les journalistes.
Question de Valérie Crova du service diplomatique de France Culture.
Nadine Epstein le rappelait, Yann Kuciak travaillait pour un site d'information qui enquêtait sur des cas de fraude fiscale en Slovaquie. Le chef de la police locale dit que son meurtre et celui de sa compagne sont très probablement liés à son travail d'investigation. Est-ce qu'il y a encore des doutes d'après ce que vous savez ?
Alors effectivement, les informations ont commencé à sortir hier matin. La police a commencé à donc donner des pistes. Nous sommes très prudents de notre côté parce qu'effectivement, les liens, compte tenu du travail de ce journaliste d'investigation, tout laisse penser qu'effectivement, il pourrait y avoir des liens avec la mafia, comme cela a pu être évoqué. Mais il faut laisser les enquêteurs faire leur travail, l'enquête progresser. Afin d'avoir plus d'éléments. Il y a aujourd'hui effectivement ce genre d'informations qui circulent.
La Slovaquie a perdu 5 places depuis l'an dernier dans le classement mondial de la liberté de la presse qui est établi par Reporters sans frontières. Pour quelles raisons ?
La Slovaquie, en fait, qui est très bien placée tout de même au classement de la liberté de la presse de RSF avec la place 17, même si elle a perdu 5 places, connaît en fait une régression, sont des attaques en fait directes ou indirectes en fait contre les journalistes qui sont menées. L'une d'elles, la plus célèbre que mentionnait votre collègue tout à l'heure, sont effectivement les attaques verbales du Premier ministre Fico qui ne lésine jamais pour traiter les journalistes donc de comme il l'a fait l'an dernier, de prostituées anti-slovaques ou qui les accuse de ne pas faire leur travail correctement. Mais ce sont aussi, en dehors de ces attaques verbales qui sont le propre aussi de d'autres ministres de Fico, ce sont des moyens plus détournés. Récemment, nous avions dénoncé un manque d'indépendance en fait des attaques contre la télévision publique slovaque, la RTVS. Le nouveau directeur en charge du média qui a été nommé par le Parlement a limogé quand même 3 rédacteurs en chef d'un coup, puis commencé à supprimer la principale émission, la seule émission d'investigation du paysage médiatique slovaque. Sont aussi des problèmes de concentration horizontale, comme on dit. C'est-à-dire qu'en théorie, la loi slovaque ne permet pas à certains industriels, certains oligarques, de détenir des médias ou plusieurs médias, plusieurs télés, plusieurs médias de télé et radio, de façon à éviter des concentrations excessives. Mais en pratique, ils contournent la loi. Et la concentration, c'est que les journalistes ne peuvent plus travailler dans des conditions saines, en toute indépendance, parce qu'ils sont victimes de pression.
Le contexte dans lequel les journalistes travaillent aujourd'hui se dégrade hein, en Europe de l'Est. Vous citiez tout à l'heure l'exemple de la Bulgarie qui est tout en bas du classement. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la Russie ?
Alors certains font un parallèle avec la Russie. Il est vrai que nous avons dénoncé à plusieurs reprises ces derniers mois des méthodes dignes de Poutine quand on s'en prenait aux journalistes. Le climat change. La Bulgarie, donc, qui détient la plus mauvaise place dans le classement de la liberté de la presse de RSF, 109e, probablement illustre pleinement cette situation. Aujourd'hui, on va dire que le discours de certains leaders politiques, que ce soit en Russie, mais on le trouve aussi aux États-Unis, désinhibe totalement et manque de respect à l'égard des journalistes et contribue à créer un climat toxique envers les journalistes. Le fait qu'un Trump ou un Poutine puisse s'adresser de cette façon aux journalistes n'est jamais bon.
Est-ce que demain, les journalistes vont devoir travailler sous protection, comme ça se passe déjà en Italie, pour les journalistes qui travaillent sur la mafia, à l'instar de Roberto Saviano ?
Tout à fait. Donc les journalistes, et nous avons écrit récemment sur le sujet, les journalistes en Italie, 10 d'entre eux en tout cas, bénéficient aujourd'hui d'une protection 24 heures sur 24, qui leur permet en tout cas de ne pas être assassinés, qui leur permet de travailler dans des conditions déplorables, mais enfin ils travaillent. C'est quelque chose, RSF a mené une campagne depuis quelques mois en faveur de la création d'un poste de représentant spécial auprès du représentant auprès des Nations Unies, de façon à faire en sorte que la protection des journalistes soit assurée dans tous les pays. C'est une campagne pour laquelle nous recevons le soutien de gouvernements au fur et à mesure, et nous encourageons les gouvernements à nous soutenir. Je voudrais rappeler que récemment, le Portugal s'est illustré très favorablement. Il y a 3 semaines, le Parlement a voté une loi qui permet aux journalistes d'avoir un statut particulier désormais. Et tout crime commis contre un journaliste sera puni pénalement. Donc c'est un bon renforcement de la sécurité des journalistes et c'est une très bonne initiative.
Pauline Adès-Mével, j'ai une dernière question. On a beaucoup parlé des autres pays de l'Union européenne. Et la France, elle en est où au niveau de la liberté de la presse ?
Alors, la France ne connaît pas ce type de problème aujourd'hui. Bien sûr, le drame, la tragédie, le massacre de Charlie Hebdo nous ont montré que nous n'étions pas à l'abri. Aujourd'hui, pour RSF, la France présente d'autres problèmes. Nous avons beaucoup écrit sur les problèmes de concentration en France parce que nous défendons l'indépendance des journalistes. Je crois que ça fait partie des principaux problèmes que les journalistes français rencontrent aujourd'hui. Là, il n'y a pas de parallèle à faire avec la situation en Slovaque. Je crois que les journalistes d'investigation peuvent enquêter relativement librement. En tout cas, ils ont des outils pour enquêter et mener à leur travail d'investigation.
Merci beaucoup, Pauline Adès-Mével, d'avoir accepté notre invitation. Merci également à Valérie Crova. Suite du défilé politique au Salon de l'agriculture à Paris, début d'une tournée de 3 jours entre les stands de la Porte de Versailles pour le Premier ministre Édouard Philippe. Pour Laurent Wauquiez, ce sera 2 jours. Le président du parti Les Républicains s'en est pris Emmanuel Macron qui, selon lui, ne comprend pas et méprise les agriculteurs. On l'écoute.
Je défends le modèle français, celui qui est fait avec des exploitations familiales, avec des gens qui travaillent dur, qui veulent juste pouvoir vivre du fruit de leur travail. Ce monde-là, Emmanuel Macron ne le comprend pas. Il ne l'écoute pas. C'est un monde qui méprise et qui l'ignore. Quand il est venu ici au salon, il a dit qu'il venait pour engueuler, je reprends ses propos, les agriculteurs. Il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. C'est que l'agriculture en France, ce n'est pas juste un secteur économique. C'est une part de la culture française. Et c'est ça qu'il faut défendre. Je demande que le président de la République s'engage à ce que le budget européen de l'agriculture ne baisse pas. On a ici la chance d'avoir des gens qui font des produits extraordinaires. C'est de la folie de signer ce traité du Mercosur qui va faire rentrer des produits d'Amérique latine faits dans des conditions qui ne sont pas acceptables.
Laurent Wauquiez au micro de Rémi Inc. Journée île morte à Mayotte. L'île est le théâtre de manifestations depuis 5 jours pour protester contre l'insécurité. Une douzaine d'élus a rédigé un projet d'appel d'urgence au gouvernement dans lequel ils demandent notamment l'affectation de 100 postes de policiers et de gendarmes à répartir sur le territoire. À l'appel d'une intersyndicale et d'un collectif d'associations, les manifestants ont distribué des tracts aux entreprises et administrations pour les inviter à rejoindre l'opération. Camille André a joint au téléphone Ousseni Balaachi, secrétaire général de la CFDT à Mayotte, membre de cette intersyndicale.
Ces incivilités, nous les subissons au quotidien. Des magasins qui sont cambriolés tous les jours, des maisons qui sont cambriolées tous les jours, ceux qui travaillent dans les hôpitaux qui sont agressés tous les jours. C'est seulement le préfet qui ne subit pas des actes de violence. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'il puisse assurer l'accès à l'éducation, l'accès aux soins et la sécurité. La force de l'ordre est dépassée par les événements. Eux-mêmes, ils sont agressés tous les jours. Ils subissent des caillassages, leurs voitures, ils n'arrivent pas à répondre aux besoins de la population. S'il y a problème aujourd'hui, c'est à cause de ce problème que les frontières ne sont pas surveillées. Mayotte est devenue comme un passoir. Je n'ai pas dit que à 100% les problèmes ils sont liés à l'immigration. Mais quand je vous dis que l'immigration il dépasse la population autochtone à Mayotte, et ce qu'il faudrait faire, et c'est ce qui manque à Mayotte, c'est savoir qui est là, il est rentré, pour quelle raison, c'est contrôler les frontières.
Contrairement à ce qu'avait annoncé l'exécutif, on n'en sait pas plus sur la réforme de la formation professionnelle. L'accord conclu la semaine dernière entre les partenaires sociaux sur cette réforme à venir a d'ores et déjà été signé par Force ouvrière, la CFTC et la CFDT. Les autres syndicats doivent rassembler leurs instances dans les prochains jours. Bonjour Catherine Pétillon.
Bonjour.
La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, avait, elle, annoncé qu'elle rendrait ses arbitrages ce matin, mais il n'en a rien été, Catherine Pétillon.
Oui, le Big Bang attendra encore un peu. Il avait pourtant été annoncé avec forte communication, suscitant d'ailleurs un certain émoi chez les partenaires sociaux. C'était la semaine dernière, l'accord conclu avait à peine son point final que la ministre du Travail avait pris la parole pour en souligner les lacunes, estimant que le texte n'allait pas assez loin et annoncer pour aujourd'hui ses arbitrages, autrement dit ce qu'elle garderait de l'accord et ce qu'elle comptait modifier dans l'architecture même du système et la manière dont il est géré. Hier, après une journée de tergiversation, on a finalement appris que la conférence de presse prévue ce matin était reportée. Du côté du ministère du Travail, on avance des questions d'agenda et de communication. La tension serait trop braquée sur la SNCF. Reste que les annonces du Premier ministre sur la compagnie ferroviaire étaient prévues depuis plusieurs jours. Cela ne suffit donc peut-être pas à expliquer ce changement de dernière minute. À écouter les syndicats, il pourrait rester des questions de fond à régler ou du moins à s'accorder sur la manière de les présenter. Plusieurs pistes ont déjà été évoquées sur ce que pourrait annoncer Muriel Pénicaud, la collègue et la centralisation des fonds par les URSSAF et la Caisse des dépôts, la remise en cause du rôle de certains organismes gérés par les syndicats et le patronat et un compte personnel de formation libellé en euros et non pas en heures. Alors dit rapidement comme ça, ces questions semblent techniques et ça l'est en partie, mais ces choix sur la manière dont le système de formation professionnelle est financé et géré sont en fait éminemment politiques. Ce dont il est question ici, ce sont la vision des droits des salariés, le passage vers une logique davantage de marché, la place laissée ou non aux partenaires sociaux et l'éventuelle reprise en main par l'État de la gestion des fonds de la formation professionnelle. Le ministère du Travail affirme en tout cas que les derniers arbitrages interministériels ont eu lieu. Ils devraient finalement être rendus publics en début de semaine prochaine.
Merci à vous Catherine Pétillon. Le tribunal municipal de Prague a remis en liberté le responsable kurde de Syrie, Saleh Muslim. Il était en détention depuis samedi. Selon son avocat, Saleh Muslim a promis de collaborer à toutes les démarches liées à la procédure d'extradition demandée par la Turquie. Co-président jusqu'à l'an dernier du Parti de l'Union démocratique, il avait été arrêté le week-end dernier à Prague en vertu d'une demande d'Interpol émise par la Turquie, le qualifiant de chef d'un groupe terroriste. Cette journée sera sans doute la plus froide de l'année, selon Météo France. En plein après-midi, le mercure ne dépassera pas 4 degrés à Ajaccio, moins 2 à Paris, moins 6 à Besançon. Un froid sec sur une bonne partie du pays, à deux exceptions près, la Corse où il va pleuvoir et le Cotentin où il pourrait neiger. C'est la fin de cette édition préparée avec Emmanuel Faucillon. Prochain journal à 18h, présenté par Aurélie Kiefer.